le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Zahu, qui est illustrateur, mais tout le monde le sait, et Gwenaël Abolivier, qui est journaliste et auteur. Ils viennent tous les deux pour nous parler d'un album, Te souviens-tu de Way, paru aux éditions Angfei Culture, culture au pluriel. Et c'est là que l'on découvre l'histoire méconnue des travailleurs chinois dans la Grande Guerre. Pour ma part, j'ai découvert beaucoup de choses dans cet album. Le week-end dernier, Carmela et Negrito m'ont fait visiter le cimetière du camp de concentration du Vernet d'Ariège. On peut y voir les tombes des 152 indésirables étrangers, comme on les appelait sur les listes, et cela est très émouvant. En sortant du camp, nous étions bouleversés. Tant de 6 jeunes hommes venus de tous les continents volontairement combattre le dictateur franco et le fascisme et traités par la France comme des terroristes, comme des traîtres. Il y avait là des Ukrainiens, des Lituaniens, des Hongrois, des Allemands, des Yougoslaves, des Chinois. Ils venaient de partout, de tous les continents. Mais Carmel a repris très vite ses esprits pour me raconter une autre histoire, une histoire d'aujourd'hui, de 2016. Sais-tu qu'il y a des Français qui constituent des brigades aujourd'hui sur les mêmes bases ? Pas vraiment, non ? Le grillon ricana en se posant sur le bout de mon nez. « Eh bien, tu vas savoir maintenant !» Carmel a poursuivi. « Il y a là la brigade Henri Krasuki. Oui, cette brigade est engagée dans le bataillon international de libération du Rojava qui accueille les volontaires venus de l'étranger pour participer à la lutte révolutionnaire au Kurdistan. Ce sont des militants de la CGT qui sont retrouvés un peu par hasard dans ce bataillon auprès des Kurdes pour combattre Daesh et qui se sont donc constitués en brigade en prenant le nom d'Henri Krasuki, ancien secrétaire général de la CGT. Mais le plus beau, reprit Negrito, c'est que ces Français syndicalistes qui combattent auprès des Kurdes pour l'instauration du confédéralisme démocratique en Syrie ont envoyé un message de soutien, devine à qui, aux 16 syndicalistes d'Air France qui passaient en procès le 27 septembre. Dans un communiqué, ils ont d'ailleurs expliqué leur combat mais aussi le choix du nom de leur brigade. Je les cite. « Nous avons choisi le nom du camarade Henri Krasuki pour notre brigade, ou Takim, comme on dit ici, car nous pensons notre combat dans la continuité du sien. Internationaliste, il a combattu l'occupant nazi en France, dans les rangs des FTP Moy, puis a continué son combat au sein du Parti communiste et à la direction de la CGT pour défendre les droits des travailleuses et des travailleurs. Ces valeurs de fraternité et de paix, nous les portons ici contre l'organisation fasciste Daesh et pour la liberté des peuples de Syrie écrasés par tant d'années de guerre. Durant la guerre d'Espagne, ce sont par centaines que l'on pouvait compter les membres de la CGT partis combattre le franquisme aux côtés des républicains espagnols. Nous continuons leur combat. » Gwenaël Abolivier, Zahu, il s'agit là d'une autre guerre, la guerre de 1914, et de notre, non pas exode, mais exil au minimum, de jeunes gens, de Chinois, qui ont été recrutés essentiellement par les Anglais d'ailleurs, pour venir non pas combattre sur le sol français, mais travailler en remplacement des bras des hommes qui étaient au front et qui étaient, c'était vers la fin de la guerre et qui étaient morts par milliers. Et ces hommes sont arrivés donc pour travailler, pour creuser des tranchées. C'est une histoire peu connu, j'avoue, personnellement, avoir découvert grâce à cet album qui est magnifique avec vos dessins, Zahu. J'ai découvert cette histoire, mais vous, comment l'avez-vous découverte? Alors, j'ai une petite idée, c'est que ce livre est dédié à Janine Kotvica, que nous connaissons tous si nous sommes passionnés de littérature jeunesse, puisqu'elle est une des grandes spécialistes de la littérature jeunesse et qu'elle... Elle ne cesse, avec une énergie merveilleuse et beaucoup de joie d'ailleurs, et de gaieté, d'essayer de faire connaître aux enfants, mais souvent aux adultes, l'histoire et aussi la création autour de l'album Jeunesse. Alors, peut-être c'est elle qui vous a indiqué ce sujet-là.
Janine a fortement contribué à cet album. Elle a, en quelque sorte, joué le rôle de la marieuse entre moi et Zahu, illustrateur, donc, et puis aussi avec les éditeurs. C'est vrai que tout ce petit beau monde s'est rendu à Nolette, sur les rivages picards.
Alors, Nolette, c'est un cimetière.
Voilà, qui se trouve sur la commune de Noyelles-sur-Mer. Non loin d'Abbeville, donc on est vraiment sur non loin de la Belle Somme. Donc ça raconte déjà géographiquement les choses, puisque finalement les travailleurs chinois sont arrivés par là, bien souvent. Ça raconte aussi que c'était suite à la grande hécatombe aussi de Verdun en 1916 que le gouvernement britannique et français sont partis en Chine pour recruter du monde.
Alors revenons à ce cimetière où vous êtes allés tous les trois d'ailleurs, je crois.
Il y avait les éditeurs aussi, les deux éditeurs.
Il y avait les
deux éditeurs aussi qui étaient conviés à venir.
D'accord. Alors, ce cimetière, j'ai vu, parce qu'il faut dire que dans cet album, il y a une histoire, une narration que vous avez écrite, Gwenaëlle Abolivier, on en lira des passages pour voir votre style, votre écriture. Il y a les illustrations de Zahu, mais il y a une partie documentaire à la fin. Et là, j'ai lu que ce cimetière, au fond, était totalement abandonné par les Français, et que s'il existe encore et s'il est entretenu, c'est grâce aux Britanniques.
Disons que c'est un cimetière qui n'est pas un cimetière militaire, c'est un cimetière qui se trouve en France, mais en effet qui est entretenu par les Anglais. Parce qu'il faut bien dire que les 140 000 Chinois, lorsqu'ils ont débarqué en 1916 en France, ont été recrutés, c'est ça, par les Anglais et par les Français. Donc finalement, c'est plus le Labour Corps anglais qui recrutait là sur le sol français.
Mais je me demandais si la mémoire des Français n'aimait pas de temps en temps effacer quelques moments tristes, parce que s'ils ont été recrutés par les Anglais, ils ont été sur le territoire français et on peut pas dire qu'ils étaient bien traités. Ils vivaient dans des camps où ils n'avaient pas le droit de sortir tout seuls, où ils étaient battus, où ils étaient peu nourris, où ils avaient froid, où ils ont attrapé des maladies terribles, ils s'en sont morts souvent. C'est pas si vieux. Zahu, j'aimerais savoir, quand vous arrivez dans ce cimetière et quand vous lisez cette histoire, qu'est-ce que ça vous fait? Vous qui avez beaucoup dessiné, écrit autour de...
Oui, je suis plus en général sur l'Afrique que sur l'Asie.
Oui, c'est vrai.
Donc là, j'ai fait un petit pas de côté, qui m'intéressait parce que c'était très étonnant ce cimetière. Il est très beau. Il y a un énorme cèdre au milieu, comme ça. Et puis, il y a une entrée qui est un portique chinois. Et puis, toutes ces tombes sont toutes pareilles, toutes les mêmes. Comme dans un cimetière militaire, mais là, c'est pas des croix, c'est des stèles, simplement. Parce qu'elles ne sont pas de culture chrétienne. Et dessus, il y a le nom en chinois et un petit texte en anglais en dessous. Le nom... et la date de décès, je pense, je me rappelle plus s'il y a la naissance et en même temps. Mais c'est surtout écrit en chinois avec un sous-titre en anglais. Mais c'est nickel, c'est très très bien entretenu, c'est impressionnant. Moi je connais bien les cimetières militaires parce que j'ai une maison dans l'Aisne où il y a tous les cimetières militaires de la guerre de 14, donc je passe à côté en voiture souvent, mais ça me fait pas le même effet parce que là c'est que des croix alignées et là c'est un autre monde. Tout d'un coup on est ailleurs. Et c'est très surprenant ce phénomène.
Vous qui avez quand même travaillé beaucoup pour la presse, mais il n'y a pas que la presse, là il y a aussi les livres d'histoire, etc. Le fait que cette histoire soit si méconnue.
Je pense que la guerre de 14, déjà, elle est très loin de nous. Quand on pense aux enfants à qui c'est destiné, c'est leur déjà leurs grands-parents sont déjà décédés, de ceux qui, pour beaucoup. Mais quand on voit les millions de morts qu'il y a eu à la guerre de 14, les 140 000 Chinois, c'est presque une bouchée de pain. C'est-à-dire qu'il y a un côté dérisoire à ça, quantitativement. Alors que c'est quand même 140 000, hein, c'est pas rien. Mais par rapport aux millions de morts, c'est vrai que c'est...
Et puis ce sont des hommes. Et je crois que le fait d'avoir choisi Gonaël Abolivier d'écrire un texte à partir d'un être fictif, Wei n'existe pas, mais il va représenter ces exilés chinois, donne justement cette humanité à cette histoire qui n'est pas qu'une histoire de chiffres. Alors j'aimerais bien que vous lisiez le début de l'album, c'est-à-dire les deux premières pages.
Te souviens-tu de cet homme, arrivé un matin de printemps, vêtu d'un habit bleu de nuit et les cheveux noirs de jais? On le disait venu des Indes ou de Papouasie, de Polynésie ou de Malaisie. Te souviens-tu de Wei, venu par mer avec ses frères? Jeune homme de 20 ans, beau comme un prince, pauvre comme un paysan. Les poches vides et des rêves plein la tête.
Alors les rêves vont se fracasser très vite. Dans la partie documentaire, vous parlez d'un contrat de travail. On a le sentiment que ce contrat n'a jamais été respecté.
Oui, parce que disons que ces hommes qui vont être recrutés, alors c'est vrai par les Anglais, par les Français, en lisant un petit peu de documentation, on apprendra que Victor Ségalin, qui se trouvait à cette époque à Pékin, a contribué aussi à sélectionner les hommes hein, pour leur leur caractère robuste, sain, etc. Et c'est vrai que ces hommes partent parce que la Chine à cette époque souffre aussi hein, de famine, donc il faut partir pour trouver une vie meilleure. Ils s'attendent pas à participer à cette guerre, évidemment. Donc c'est une grande désillusion pour ces hommes qui vont vivre des conditions d'esclavage et de forçat dans ces baraquements où ils n'auront quasiment pas le droit de sortir. Ils vont vivre très près des combats. Ils vont participer à creuser les tranchées. Alors c'est vrai qu'il y a une zone un petit peu de comme ça qu'ils doivent respecter de 16 kilomètres, mais le front change en tout temps de place finalement. Bien souvent se retrouvent.
Qui vont prendre les morts, les cadavres, qui vont les enterrer, les transporter. Enfin,
ah oui, c'est extrêmement dur. Certains seront recrutés aussi pour déboiser des forêts, pour travailler aussi à la construction d'armement. C'est vrai, ils sont employés sans être finalement employés en tant que militaires à proprement parler, puisqu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'uniforme, mais finalement, il contribue quand même largement au combat.
Zahu, quand vous avez dessiné cet album avec ce texte, dont on entend d'ailleurs qu'il est très rythmé, c'est pas des poèmes, mais on n'en est pas loin.
Ça se veut, oui, c'est ça. Un texte poème avec ce rythme, comme une ode, un chant à ces hommes. Alors c'est vrai que ce sont des Chinois, mais moi je me suis beaucoup inspirée finalement à cette époque. Dans le même temps, je lisais beaucoup de correspondances de la Grande Guerre et des poilus qui soient des poilus picards, auvergnats, bretons, là sont mes origines. Je trouvais qu'il y avait un point commun, finalement, à tous ces hommes. C'était leur jeunesse. Tous ces poilus qui sont partis sur le front avaient des rêves d'une vie meilleure, comme les Chinois, d'ailleurs. Donc, finalement, d'où qu'on venait, à cette époque, on allait tomber pour une cause totalement injuste, une guerre.
Oui, mais alors, quand vous dites ça, moi, j'entends que toutes les guerres se font avec des hommes jeunes, robustes,
tout à fait.
Et brisent les rêves, et mais aussi tous les réfugiés. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas penser à Calais, on ne peut je ne sais pas, Zahu, quelles images étaient dans votre tête.
Oui, mais il y a un phénomène de proximité, en effet, entre ceux qui viennent là, qui sont d'ailleurs, et ceux qui arrivent aujourd'hui, qui sont aussi d'ailleurs, qui fuient une guerre d'ailleurs. Même les chiffres, on arrive dans les mêmes phénomènes, comme ça, quantitatifs, quoi. C'est-à-dire que c'est impressionnant.
Et ça va même plus loin, puisque comme ça fait écho effectivement à l'actualité. Lorsqu'on écrit un texte, lorsque Zahu va dessiner, hein, on est aussi, on va puiser dans des images d'archives, mais on puise aussi dans le quotidien, en fin de compte. Hein. Et moi, je sais que lorsque j'ai écrit ce texte, tout ce qui me poussait dans ces images, c'était aussi les images d'attentats, de ce qu'on avait vécu, je veux dire, au mois de novembre dernier. Tous ces jeunes gens, ceux qui tombent aussi à Paris, c'est ça, derrière ce Wei. Je veux dire, il y a toute cette jeunesse. Il y a ce souffle-là.
Alors, je reviens à Zahu et aux images pour dessiner ces Chinois, leur voyage, mais aussi le front, enfin, si ce n'est le front 16 kilomètres derrière, hein, ces travailleurs, finalement, on les appelle la main d'œuvre de guerre. Sur quoi vous êtes-vous appuyé?
C'est toujours une question quand on a un album à faire. Il y a un besoin d'homogénéité entre le début et la fin, qu'on passe malgré tout. Je pense pas qu'il faille faire des séquences en Chine, des séquences en France, des séquences maintenant, des séquences plus vieilles. Pour moi, c'est une histoire qui se raconte. Le texte, il est très fluide et il s'enchaîne comme ça. Et donc, j'avais besoin de trouver une homogénéité à tout ça. C'est-à-dire qu'une ligne de conduite qui fasse que tout ça s'enchaîne malgré tout. Dans le temps et dans l'espace, alors qu'il y a des milliers de kilomètres entre eux, parce que là, au départ, ils passent par la Méditerranée, mais après, ils font le tour de l'Afrique, et après, ils passent par l'océan Pacifique, l'Atlantique, le Canada, enfin, c'est effrayant, mais que tout ça soit écrit de la même façon. Donc, c'est un peu la même façon dont je travaille maintenant, c'est-à-dire que c'est tout dessiné en noir et blanc. Une fois que je suis satisfait des dessins, ce qui n'est pas si simple que ça, une fois, je mets en couleur tout en même temps. C'est-à-dire que chaque couleur, elle est sur toutes les pages en même temps. C'est-à-dire que j'étale tout par terre et je fais ma première couleur, la deuxième, la troisième, comme ça. Mais le gris de base, comme ça, il est sur toutes les couleurs. Après, l'ocre, il est sur toutes les pages aussi. Le violet pâle aussi. Enfin,
il y a quand même un petit peu plus de couleurs vives sur
juste,
la.
Il y a juste du rouge.
Voilà, sur la dernière double page.
Du rouge, il y en a presque partout, bizarrement, mais en très petite dose.
Il y en a sur les tombes, évidemment, et là, ça prend tout son sens.
C'est la seule couleur vive qu'il y a.
Seule couleur vive. Ouais. Mais le premier portrait qui est magnifique, ce portrait de Wei, les yeux dans le vague ou sur ses rêves, sur l'horizon de ses rêves, on ne sait pas bien. C'est un gros plan, comme on dirait aujourd'hui.
Le texte de Gwenaëlle dit quand même qu'il était beau comme un prince, quand même. Donc, ouais. Il ne faut pas en faire un terrassier de bas étage. Il y avait peut-être en effet des Chinois qui n'étaient pas beaux du tout. Hein. C'est la réalité, c'est ça. Mais je pense que c'est plus intéressant de se pencher sur un personnage beau et qui va malgré tout faire un travail de chien, hein, totalement, tout son séjour-là et peut-être en mourir. Hein. Mais on se projette plus facilement sur quelqu'un de beau que sur quelqu'un qui est déjà moche.
C'est dur, non, ça?
C'est effrayant, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que pour se projeter dans la vie de ce garçon qu'on ne connaît pas du tout, il y a besoin qu'il soit une image presque idéale du Chinois, malgré tout. Parce que c'est pas parce que c'est des terrassiers qu'ils étaient forcément moches. Hein. C'est-à-dire que je pense que la vie partout dans le monde et il ne veut pas les beaux en haut et les moches en bas. Hein.
Heureusement.
Oui. Hein.
Alors là, il y a une double page encore pour le dessin où on voit sur la page de droite le visage en gros plan de Wei et sur la page de gauche, plus loin, la colonne de ces travailleurs chinois avec leurs pelles et leurs pioches sur l'épaule comme un défilé. C'est une image, ça, aussi, assez éternelle. C'est celle qu'on voit dans les films, quand on voit des gens enchaînés qui travaillent sur les routes.
Oui, que ce soit des prisonniers, ou des soldats. Oui. Les soldats, c'est plutôt des fusils, des pelles, mais ça a ce même effet anonyme, quelque part, quand j'ai fait mon service militaire, quand je me suis retrouvé habillé en soldat, ça m'a fait un drôle d'effet. Je me suis dit, c'est bizarre, mais je me sens pas comme les autres. Malgré tout, c'est pas parce que j'ai un costume de soldat que je suis soldat. C'est-à-dire que l'habit ne fait pas le moine quand même. Hein, voilà. Et là, malgré tout, je pense que si on avait pu interviewer chaque garçon, je suis pas sûr qu'ils pensaient la même chose tous. Hein. C'est-à-dire que il y en avait qui devaient être des poètes et d'autres, je sais pas, des musiciens et d'autres des brutes épaisses. Hein. Je pense qu'il y avait tout là-dedans. Hein. C'est que
en tout cas, cette colonne d'hommes, de forçats, hein, finalement, résonne immédiatement comme cette page où on les voit creuser les tranchées pour ceux qui vont venir s'y battre. Alors, peut-être justement sur les tranchées, Gwenaëlle Labolivier, nous lire un extrait à nouveau de votre texte.
Oui. Te souviens-tu de Wei, bête de somme, devenue docker ouvriers, fossoyeurs, creusant en pleurs des tranchées, charriant en sueur des chevaux broyés, enterrant les corps tombés au champ d'honneur. Dans une odeur de mort et de sang, il a traîné ses 20 ans. Dans une guerre, oui, la grande guerre tout de même. Une guerre du bout du monde qui n'était pas la sienne.
Alors, merci, Gwenaëlle Abolivier. Cette histoire va faire peut-être du bien aussi à des enfants d'aujourd'hui qui vont recevoir cet album, qui vont le lire, j'espère, le plus possible, parce que j'ai l'impression que les jeunes générations ont besoin qu'on leur raconte une histoire qu'ils ignorent souvent, dont les familles ne parlent pas toujours, dont les livres d'école, évidemment, ne parlent jamais. C'était un peu ça, l'idée aussi ?
Je pense que le désir de une feuille culture que je commence à connaître un peu en les écoutant parler, est de parler, c'est pas un éditeur chinois, c'est un éditeur franco-chinois, et qui a envie de faire passer cette altérité du chinois par rapport au français, ce que nous on ne connaît pas. Il y a d'un côté les chinois, puis nous. Quoi, hein. Et là, de parler des chinois chez nous. Quoi. Et qu'est-ce qu'ils sont venus foutre chez nous ? C'est quand même ça la question. Mais pour qui ? Pourquoi ? Hein. Mais cette espèce de rapport à l'autre, qui n'est pas pareil, et pourquoi il vient là ? Alors maintenant on se pose des questions sur est-ce que c'est des réfugiés économiques, sanitaires, ou ça, mais là on ne se pose pas la question. Ils ont besoin de manger parce qu'ils sont les famines en Chine et on les utilise dans un usage très violent quand même. Hein, voilà. Donc c'est très particulier ces phénomènes de racisme quelque part, hein, parce que ça manipule le racisme. Alors je sais pas comment perçoivent les gamins ce problème de différence, parce que maintenant dans les écoles il y a aussi bien des Maghrébins que des Chinois que des. Hein. Je pense que c'est intéressant ce phénomène de mixage. Moi je suis plutôt pour, hein, mais je le constate que c'est toujours une question qu'il faut toujours faire avancer.
Et alors une manière de la faire avancer, c'est la poésie. Et là, je quitte, te souviens-tu de Wei, et pour venir à un autre album dont vous êtes aussi l'illustrateur, Zahu, mais dont le texte est de Karl Norak, c'est un petit album, il fait la moitié de l'autre, et il s'appelle « Plus haut que le ciel » et son éditeur, c'est « Rue du monde ». Et voilà le premier poème. Il y a plusieurs façons de regarder le ciel. Il y a plusieurs saisons pour regarder le ciel. Il y a plusieurs raisons de regarder le ciel. Chacun a sa saison. Chacun a ses raisons. Et qui donc aurait tort ? Et là, on va découvrir une histoire d'animaux, puisqu'il s'agit de ces suricates, qu'on appelle aussi les sentinelles du désert, je crois, qui sont de la famille des mangoustes, et qu'on trouve en Afrique et en Australie, qui sont amusantes, parce qu'elles sont toujours sur leurs pattes à regarder le ciel. Et Karl Norak, qui est un des grands auteurs de la littérature jeunesse, et qui a beaucoup d'humour en plus, va raconter l'histoire de ces petits animaux qui nous donne une belle leçon d'humanité, parce que c'est des animaux sociaux. C'est-à-dire, s'ils sont seuls, ils meurent. Ils sont obligés d'être par groupe de 20, 30. Et donc, ils leur donnent des prénoms, Jack, Jim, Joe et Jerry, le plus petit. Et une belle métaphore va être de chaque... Ils vont se disputer sans cesse pour dire quelle est la meilleure façon de regarder le ciel. Pour admirer le ciel, dit Jack, il faut être bien installé, c'est couché sur le dos, comme moi, qu'on voit mieux son bleu. « Paresseux, répond Jim, pour bien regarder le ciel, il faut sautiller jusqu'en haut de la montagne et s'asseoir pour vraiment profiter de son immensité. »« Ah, les zozos, s'écrie Joe, pour voir le ciel, il faut fermer les yeux, compris ?»« Et là, deux fois oui, comme moi, vous verrez le ciel. » À l'intérieur de vous-même et vous comprendrez enfin son mystère. Et bon, les gars, on se calme, hein, conclut Jerry le plus petit. Pour regarder le ciel, ce n'est pas compliqué. Tu lèves la tête, où que tu sois, sur les fesses ou sur un pied, et paf, tu le vois, terminé, il n'y a pas à discuter. Et donc, on va avoir un texte comme ça, extrêmement bien rythmé, plein d'humour. Tout ça pour nous montrer que quand le danger vient, l'aigle, il va falloir ne plus se disputer, voilà, mais faire au front ensemble.
Tout à fait, mais c'est la solidarité, c'est la fraternité même, surtout, hein, parce que il y a eu 3 albums, Fraternité, Égalité et Liberté. Mais je pense que tous ces phénomènes sont des... Je trouve que ça parle tout ça de la même chose, quoi. Ça parle des individus. Là, on s'est traité par des souricates pour que ce soit presque plus drôle, quoi, c'est-à-dire. Mais c'est aussi humain que les Chinois. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est la même problématique. des hommes entre eux, ils sont aussi différents et toujours en train de se chamailler et ne pas être d'accord avec les autres. Et puis tout d'un coup, face à la différence, à l'autre, à la chose, au danger, au risque, à tout ça, tout ce qu'on peut imaginer, tout d'un coup, ils se mettent tous ensemble. Quoi.
Et d'ailleurs, c'est très, vous avez dû vous régaler, là je pose la question à l'illustrateur encore, parce que au milieu du livre, évidemment, ils vont se bagarrer comme des fous, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la meilleure façon de regarder le ciel, et une bagarre, presque une guerre, oui, on se pousse, on se renverse, puis tête à l'envers, on se bloque à terre, on s'accroche, c'est moche, une énorme boule de poils s'agite dans tous les sens, 16 pattes, 8 oreilles, qui est à qui et quoi. Tout ça parce qu'on ne pense pas de la même manière. Attention, hurle Géry, le plus petit. Regardez, et là, c'est donc l'aigle qui arrive. Mais cette page que vous avez, cette bagarre que vous avez dessinée, ils sont très drôles, ces animaux, parce que ils ont même des expressions. Et en même temps, il y a, on dirait, une grande scène de catch à 10.
Oui, j'aime bien. De toute façon, dans le dessin, j'aime toujours bien le dessin, globalement. Mais j'essaye de ne pas rentrer dans le... Comment dire? Dans le détail. Et je pense que c'est le point commun. Alors c'est marrant parce que tout d'un coup, en le regardant, je me souviens que c'est presque la même gamme de couleurs que Way.
Hein? Oui.
On est sur des espèces de kaki ocre comme ça. Mais j'aime bien en faire le moins possible malgré tout. Même si c'est difficile à lire. Parce que cette image de bataille, là, c'est un peu le bordel quand même. Hein? C'est-à-dire que c'est... On sait pas où ça commence, où ça finit chacun. Ils sont que quatre, mais il y a des pattes dans tous les sens. Et là. Mais je suis pas dans un travail anatomique non plus. C'est vrai qu'il y a eu le même travail d'arriver à investir les souris quatre comme ça, de comprendre comment ils sont foutus, parce que j'en ai pas sous les yeux tout le temps. Et puis de les faire se chamailler et changer de position, quoi. C'est que la couverture, c'est facile, ils sont de profil, mais après, c'est vrai que ça.
Oui.
Et les Chinois, c'est un peu le même problème. C'est que, qu'est-ce qui est différent chez un Chinois que d'un Français? C'est peu de choses, finalement. Hein. C'est quelques traits différents, comme ça. Et d'arriver à rentrer dans cette espèce de typologie, mais sans détail. Si on regarde bien le bouquin, on ne sait pas bien comment il est habillé, on ne sait pas bien... Il y a plein de choses qui...
Alors justement, Gwenaël Abolivier, est-ce que vous avez reconnu le Wei que vous avez imaginé, dont vous avez écrit l'histoire dans le dessin de Zahu?
C'est ça qui est extraordinaire finalement dans notre association, puisque bon, j'ai d'abord écrit le texte, donc il y a eu cette réflexion aussi sur quelle forme allait prendre le texte. Bon, moi venant aussi du journalisme et de la radio, j'avais envie de quelque chose d'immédiat, il fallait quelque chose de fort, enfin, bon, c'est de la littérature qui s'adresse à la jeunesse, mais... Elle n'en est pas moins, je veux dire, forte. Il faut qu'elle aille à l'essentiel aussi. Et puis, il faut qu'il y ait un message. Ce message aussi de révolte hein, par rapport au sujet. Qui quand même, voilà, ce sujet de guerre et d'injustice, toujours. Donc, il y a eu ce grand poème qui s'est imposé, en fin de compte. Hein, qui s'est imposé. Puis après, voilà, Zahus l'a approprié. Et c'est vrai qu'en découvrant ces illustrations, il y a eu quelque chose d'assez magique. C'est-à-dire qu'en fait, son trait, son choix de couleur, etc., tombait pile, quoi, avec les mots. Et j'allais dire que, finalement, ça portait plus haut encore les mots. Donc, quand j'ai découvert l'association, c'était assez fabuleux.
C'est une belle expression, porter plus haut les mots grâce au dessin.
Grâce au trait de Zahu, tout à fait.
C'est un beau compliment, Zahu.
Oui, c'est un beau compliment. Vous savez que le terme illustré, c'est quand même marrant, c'est mettre en lumière quand même. Hein.
Ben oui, hein, finalement,
lustre,
il est beau.
Lustre. Hein,
c'est... Oui, finalement, on va le garder.
Voilà.
Alors, merci à tous les deux d'être venus ensemble pour parler de ce magnifique album paru aux éditions Hongfei, Te souviens-tu de Wei? Je crois qu'il faut qu'il soit dans toutes les écoles, toutes les bibliothèques. Plus haut que le ciel aussi, Karl Norak et Zahu, et là, c'est l'éditeur Rue du Monde, et encore chez Rue du Monde, une cuisine du monde pour les bébés, 60 recettes pour initier les tout-petits aux saveurs d'ailleurs. Merci Zahu, mais vous en faites tellement des livres que je suis sûre qu'on va se revoir très très bientôt. Et vous aussi, j'espère, Gwenaël Abolivier. Et puis, saluez Janine de ma part, un gros bisou et surtout beaucoup d'admiration pour elle. En quittant les chemins buissonniers, eh bien, on peut réécouter ou télécharger cette émission sur le site de franceculture.fr. Le temps buissonnier, c'est toute une équipe. Aline Payet, Laetitia Coya, Annie Comier et à la technique aujourd'hui, Alexandre. Dans le temps missionné, ben ça a filé trop vite encore une fois. Il est l'heure du premier journal de la journée sur France Culture. Bonne journée à tous.